Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une BD qui intrigue de la première à la dernière case. Et une fois l'album refermé, il reste cet étrange goût de mélancolie, matinée d'humour, d'ironie et de tristesse que l'on ressent tout au long de cette histoire mystérieuse, racontée à travers le regard fixe d'un personnage muet, différent, au destin chahuté par des drames personnels et familiaux, mais qui semble étonnamment insensible, au premier regard en tout cas. L'album s'appelle Le Spectateur, et ce récit est d'ailleurs essentiellement une question de regard sur le monde, sur la vie, et forcément un peu sur soi-même, car le lecteur devient lui-même spectateur du spectateur. Le Spectateur, donc, de Théo Grosjean, est paru dans la collection Noctambule des éditions Soleil, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Théo Grosjean.
Bonjour.
On va beaucoup parler d'œil, de vision hein, dans cette émission, mais c'est par les doigts qu'il nous faut d'ailleurs entrer dans votre histoire avec ces quelques mots écrits en relief hein, sur la page de garde. Désolé par avance, je ne fais que passer à travers. Et il en faut pas plus pour installer cette étrangeté, ce mystère qui entoure le personnage principal. Et ça continue juste après, hein, avec les deux premières planches qui nous font assister à la naissance de Samuel, uniquement à travers le regard du bébé. Alors on est d'abord à l'intérieur du ventre de la mère, puis dans les bras de l'accoucheur, et toute l'histoire, comme ça, est racontée donc à travers les yeux de cet étrange personnage. On est un peu comme dans un film, tourné avec une caméra subjective. Comment vous est venue l'idée ?
En fait, cette idée du spectateur est venue de l'envie de faire ressentir au lecteur une émotion que je ressens moi-même depuis tout petit, en fait, qui est cette émotion cette sensation, on va dire, d'être spectateur du monde et de ne pas réussir à être complètement en phase avec mon environnement, comme de ressentir un décalage, un sentiment d'étrangeté. Donc voilà, c'est parti de ce sentiment-là que j'ai toujours défini comme étant, pour moi, j'ai toujours défini ça comme étant le sentiment du spectateur dans ma
tête.
Mais
à partir de quel âge vous avez ressenti ça?
Disons que c'est un sentiment sur lequel j'avais pas forcément mis de mots assez tôt, puis je l'ai plus verbalisé à l'adolescence, on va dire, en fin d'adolescence. Et ce sentiment-là, qui en plus a été exacerbé par l'anxiété, notamment. L'angoisse, le stress, toutes ces petites choses sympathiques qui sont un peu arrivées plus tard. Et c'est vrai que j'avais cette envie-là de représenter cette émotion-là, mais sans avoir forcément à la décrire par des mots. Et donc je cherchais un moyen, en passant par la bande dessinée, de le faire ressentir directement au lecteur ou à la lectrice, sans forcément avoir à l'expliquer. Et donc j'ai pensé à la vue subjective qui permettait de plonger le lecteur dans la peau du personnage.
Oui.
Et la deuxième idée, c'était que le personnage n'entre pas en communication, et donc qu'on ressente vraiment ce décalage, cette impossibilité d'être en contact avec le monde qui l'entoure.
Alors tout le récit se passe donc à l'intérieur du champ de vision du personnage de Samuel, matérialisé par la case de bande dessinée. Donc à chaque page, il y a trois lignes de deux cases, hein, donc pour chaque planche. Pour le dessinateur que vous êtes, c'est une contrainte ou c'est un amusement ?
C'est plutôt c'est un peu des deux en fait, à vrai dire, mais c'est plutôt un amusement dans le sens où de la contrainte naît souvent les idées. Et j'ai pour habitude de me donner quand même pas mal de contraintes quand je dessine ou quand je lance un projet. Je trouve ça intéressant parce que ça permet de se recentrer sur quelque chose et d'avoir une idée en tête sur laquelle on peut se recentrer quand on est un peu perdu justement. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut tenir cette direction, il faut avoir confiance en cette idée qu'on a eue. Notamment, donc là, c'est la vue subjective, mais... Voilà, ça peut être plein de choses en fait.
Ouais. Alors on sent effectivement, puisque c'est une vue subjective, on sent que la tête du personnage parfois change de direction, parfois elle reste fixe et on voit les gens qui rentrent ou qui sortent de son champ de vision, on les voit qui se rapprochent de très près quand il embrasse quelqu'un par exemple, on a l'impression d'une caméra en plongée quand il regarde un objet de haut, comme sur la couverture. Et puis évidemment la grande question qu'on se pose, c'est à quoi est-ce qu'il ressemble Samuel ? Heureusement, dans deux scènes, dans une, il est dans sa salle de bain et il se regarde dans le miroir, donc on voit enfin à quoi il ressemble. Et puis une autre fois, c'est son reflet dans l'eau qu'on peut apercevoir, mais c'est assez subreptice. Vous dessinez à l'ordinateur, Théo Grosjean ?
Sur cet album, oui. Je ne dessine pas toujours à l'ordinateur, mais sur celui-ci, j'ai pris la décision, enfin, sur tablette pour être plus précis. Et en fait, c'est surtout parce que en fait, c'était un défi technique pour moi. Donc j'étais moins sûr de moi et c'est quand même plus simple de revenir sur son dessin à la tablette. Donc,
ouais, c'est le numérique qui vous a suggéré cette couleur qui est vraiment très singulière. Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de turquoise, je sais pas comment.
Moi j'appelle ça le vert d'eau.
Mais le vert d'eau, voilà. Oui.
Je crois qu'il y a beaucoup de nombres. En fait justement, non, c'est pas vraiment le numérique, c'est une couleur que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis très très longtemps. Je l'aime bien parce que c'est une couleur froide et qui a presque un petit côté un peu glauque.
Oui.
Même un peu glauque.
Même, clairement, oui,
et,
disons-le.
Qui est un entre-deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment la définir, c'est ni du bleu ni du vert, et je la trouve en même temps très belle en fait. C'est une très belle couleur pour moi.
Oui, donc on a vraiment là aussi ce souci de vouloir montrer l'étrangeté
hein,
au lecteur, j'allais dire au spectateur, mais c'est un petit peu la même chose finalement dans cet album. Et puis donc, petit détail important, vous en parliez vous-même il y a un instant, Samuel est muet, donc Samuel ne dit rien. On est à la radio, vous allez me dire forcément oui, mais c'est déroutant le silence.
Oui, je pense que c'est déroutant pour ceux qui sont dans le cadre de la bande dessinée. Samuel déroute énormément les personnages qu'il rencontre de par son silence, oui, parce que le fait de pas s'exprimer et de simplement être un observateur, c'est très déstabilisant. C'est vrai que même si je communique beaucoup plus que Samuel, j'ai fait un petit peu cette expérience dans le sens où j'étais un enfant assez timide, assez réservé, et donc j'étais beaucoup plus dans l'observation et je regardais beaucoup les gens en fait.
Et quelqu'un qui observe comme ça sans rien dire,
c'est ça. C'est toujours un peu louche, oui. Et c'est toujours, ça peut être difficile à vivre.
Oui.
Et
d'ailleurs, très très vite, sa mère dit hein, juste après sa naissance, il est mignon, mais il met un peu mal à l'aise. C'est un bon résumé finalement.
Oui. En fait, j'avais envie d'une scène très forte pour débuter le livre, et l'idée d'un bébé qui ne crie pas, pour moi, c'est vraiment c'est assez terrifiant en fait d'imaginer ça, même si on le voit pas du coup directement vu qu'on est du point de vue du personnage principal, mais voilà.
Oui, donc étrange, attachant, il suscite pas mal de moqueries, pas mal de méchanceté hein, quand il grandit. On a l'impression qu'il est d'une froideur totale, et dès que des drames arrivent dans sa vie, et il y en a, on va pas tout raconter, mais vous les éludez. Il y a énormément d'ellipses, en fait, à des moments très clés du récit, et on comprend quelques pages après, en général, ce qui s'est passé dans cette ellipse. D'ailleurs, on peut dire, sans rien révéler, mais que le mutisme est un élément majeur du scénario, finalement. C'est à travers son mutisme que sa vie progresse.
Tout à fait, oui. Le mutisme est aussi un déclencheur de situation, c'est-à-dire que le fait qu'il ne puisse pas communiquer entraîne des situations, des conséquences parfois dramatiques dans sa vie, et donc c'est un élément déclencheur. Oui,
voilà. Son entourage, donc évidemment, est impacté aussi par ça. C'est d'abord évidemment ses parents. Au passage, Théo Grosjean, son père, c'est quand même un fief crétin.
Effectivement, oui, c'est vrai. C'est quelqu'un de très perdu aussi, qui sait pas où il va et qui sait pas ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai essayé de dont j'ai essayé de lui apporter un peu de nuance à la fin.
Oui, parce que le personnage évolue effectivement beaucoup pendant le récit. Pas piqué des hannetons non plus le personnage du fils de sa belle-mère, qui deal du shit, qui joue au caïd et qui passe son temps à l'embêter. Par exemple, dans cette scène qui se passe dans un parc, dans laquelle on croise aussi une autre de ses camarades de classe qui s'appelle Judith. Nous sommes à la page 54 de l'album.
Y'a plus de PQ aux toilettes. Donne ton cahier. Donne ton cahier, je te dis. T'inquiète, je te le rends. Je vais juste y faire une dédicace. Histoire de laisser une trace de mon passage.
Rends-le-lui.
Depuis quand une meuf me donne des ordres?
Depuis toujours, j'imagine. Demande à ta mère.
Je lui rends seulement si tu me roules une pelle.
Bah ouais, vas-y. Bah alors, t'as peur?
Non.
Oh.
Sur le quartier, y'a juste Dite et Hugo qui s'embrassent.
Bof, c'était décevant.
Bah bon, moi j'ai bien aimé. Je vais m'améliorer, t'inquiète. De toute façon, maintenant que tu m'as embrassé, si tu sors pas avec moi, tout le monde va dire que t'es une pute.
J'espère que ton carnet vaut la peine d'être obligé de sortir avec le plus gros crétin du collège. Je rigole, je m'en fous. Il a un beau petit cul, je l'aurais pécho de toute façon. Wow, c'est pas mal. T'aimes bien les oiseaux, on dirait. Et c'est tellement bien, en fait, qu'on a envie de refermer le carnet pour qu'il s'envole pas. Bon, par contre, il y a vraiment que des oiseaux, quoi. Tu devrais essayer de dessiner cet animal absurde qui a besoin d'humilier ses semblables pour se sentir exister. Comment il s'appelle, déjà? Demain, à 17h, on se retrouve devant le collège, et tu viens me dessiner chez moi. Faut que tu t'entraînes.
Et c'est d'abord par le dessin, effectivement, que Samuel va d'abord s'exprimer, puisque ce personnage est donc muet. Il le fait très très tôt, hein, d'ailleurs, Théo Grosjean. D'abord de façon figurative, et ensuite de façon de plus en plus abstraite, qui va lui valoir d'ailleurs un certain succès. C'est sur le papier, d'abord, qu'il laisse voir ses émotions, de ce point de vue. Vous n'êtes pas très très loin de Samuel, peut-être, Théo Grosjean.
C'est quand même un personnage de fiction, et après c'est vrai que il y a des scènes, des passages du livre qui sont inspirés de souvenirs, de fragments de souvenirs de ma vie, mais c'est une histoire fictionnelle.
Mais c'est par le dessin que vous considérez comme un médium pour vous exprimer. Ouais. C'est la base de tout travail de dessinateur, mais peut-être un petit peu plus encore pour vous.
Oui. Disons que en fait le dessin, quand on a du mal à communiquer ses émotions, quand on a du mal à communiquer tout court. C'est presque, enfin pour moi dans mon cas en tout cas, c'était quasiment une pulsion de vie entre guillemets, de communication. C'est pas quelque chose que c'était quelque chose que je vivais comme vraiment une libération et pas forcément comme voilà, j'avais pas besoin par exemple de me motiver à dessiner. C'était quelque chose qui venait. Enfin, je dessinais énormément. Alors je dessinais mal petit. Pendant très longtemps, je dessinais mal parce que j'ai jamais pris de cours de dessin avant mes études. Mais par contre, je dessinais énormément, quoi, des personnages très symboliques, des situations, je faisais un peu de la BD aussi.
Ouais. Ouais, et votre précédent album, c'était L'homme le plus flippé du monde. C'était un moyen de dessiner vos angoisses pour mieux les dépasser, on peut dire ça comme ça?
Oui, tout à fait. Ce sont deux albums cathartiques à 100%.
Donc, comment est-ce que vous avez compris, Théo Grosjean, que le dessin serait votre moyen d'expression privilégié?
Bah encore une fois, je l'ai pas vraiment compris. C'est un petit peu c'est presque venu un petit peu comme ça. C'est-à-dire que j'étais un élève assez médiocre au lycée. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. J'avais aucune envie à part le dessin, en fait. Donc en fait, c'était assez logique pour moi de faire ça, mais c'était pas prémédité, sachant qu'en plus pendant de longues années, j'imaginais pas que c'était possible d'en faire son métier. Et je m'étais pas vraiment renseigné dessus, à vrai dire. Et c'est assez tard finalement que je me suis dit, mais en fait j'étais presque pied au mur, je me disais ben en fait je peux faire que ça, quoi, donc je vais faire ça.
Et enfin, vous étiez vous-même spectateur des dessins des autres, des tableaux, des peintures, des BD, du cinéma, de la télévision, vous aviez l'œil du spectateur?
Bah je pense oui, après c'est difficile de dire comme ça là, mais je dirais que oui, je consommais beaucoup de livres, de bandes dessinées surtout. De films, de séries, oui, je regarde et je me réfugiais beaucoup dans les univers fictionnels. Oui.
Notamment américains, parce qu'on sent quand même une petite patte américaine dans votre dessin, pas sur toutes les planches, mais quand même.
Et bien en fait, les influences américaines, je les ai eues assez tardivement, parce que j'ai lu aucun comics, en fait, c'est la seule style de BD que je n'ai pas lu dans mon enfance.
Ah oui.
Et c'est arrivé très tardivement, donc vers la fin de mes études, où j'ai commencé un peu à explorer le monde de la bande dessinée américaine indépendante, surtout. Et en fait, là, ça a été un gros choc. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une influence claire de ce côté-là. Mais je pense que c'est pas mes influences de base.
Influences de base, c'est plutôt manga ou plutôt BD franco-belge?
Les deux. Alors, pour le coup, c'est vraiment une fusion des deux parce que j'ai aimé la bande dessinée avec les auteurs un petit peu de l'association, Lewis Trondheim, Johan Sfar, etc., que j'ai découvert très tôt. Et puis après le manga, le shonen, Dragon Ball, One Piece, tous ces mangas très populaires, je les ai tous dévorés. Donc voilà, c'est un peu c'est hybride en fait, c'est entre les deux, on va dire.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Théo Grosjean pour son album Le Spectateur, paru aux éditions Soleil dans la collection Noctambule. On a entendu il y a un instant le personnage de Judith. Hein. Judith, c'est la petite nouvelle qui débarque dans la classe de Samuel en cours d'année scolaire et ils vont beaucoup se rapprocher. Et l'autre ami de Samuel, c'est Yacine, qui est lui aussi en butte aux moqueries de ses camarades. Et à travers ces différents personnages, qu'il s'agisse de Judith, de Samuel ou de Yacine, Théo Grosjean, en fait, vous abordez d'un bout à l'autre de l'album énormément de questions qui sont au cœur de la société française contemporaine. Vous parlez de drogue, d'homophobie, de délinquance et de banditisme. Il y a une scène de cambriolage qui est à la fois très étonnante et très drôle. Vous parlez du revenge porn, vous parlez du handicap, de la fidélité conjugale, de l'endettement, des huissiers de justice. Vous parlez du cancer aussi. Est-ce que l'œil du spectateur, et sans prétention aucune, c'est pas aussi l'œil du sociologue?
Là, c'est, disons que oui, ça serait peut-être un peu prétentieux pour moi de me définir comme ça, mais disons que j'essaye en fait de... J'ai essayé dans cet album, comme c'est un album qui retrace la vie d'un personnage, une vie c'est extrêmement dense, et je pense que la perception d'un personnage dans toute sa vie, elle est immense en fait. J'avais envie aussi que ça se traduise dans l'album. Donc j'ai essayé d'aborder plein de thèmes en essayant... Parfois, ce qui est compliqué, c'est que j'étais un peu obligé de... Parfois, c'est effleuré. Parfois, c'est très plus profondément... plus profond, tout simplement.
Mais le spectateur de l'album, lui, pour le coup, réfléchit forcément. Bah, et ça chemine dans sa petite tête.
J'espère que ça donne envie de réfléchir. Voilà, c'est vrai que j'ai essayé d'aborder tous les thèmes qui me tenaient à cœur, en fait.
Est-ce que c'est un album sur la différence ? Parce qu'au fond, est-ce que c'est pas ça, le thème de la différence, qui regroupe tout ce que l'on vient d'évoquer depuis le début de cette émission ?
Oui, probablement. Je pense que le thème qui ressort de l'album, c'est un sentiment de différence ressenti par le personnage principal, mais que lui renvoie aussi la société et les personnages qui le rencontrent. Donc oui, c'est un des thèmes principaux de l'album, oui, voire le thème le plus important.
Oui, peut-être le deuxième thème important, c'est aussi la mort, parce que la mort, elle est quand même omniprésente, quoi. Soit la menace de la mort, soit la mort dans la réalité.
Mm-hmm. Exactement, et la mort est le sujet qui traverse comme un fantôme tout l'album, par des symboles, par des personnages qui décèdent. L'angoisse, on sent que c'est une angoisse qui traverse le personnage de Samuel. Et c'est presque c'est un album sur la mort, je pense.
Ouais, et la mort, elle apparaît d'ailleurs dès la couverture, hein, avec ce corbeau, cet oiseau noir en tout cas, qui apparaît allongé sur le sol entre les pieds de Samuel. On est vraiment là dans une scène en plongée, hein, pour parler comme cinéma. Comment est-ce que vous avez dessiné justement la couverture, Théo Grosjean?
En fait, ça a été la couverture, ça a été assez compliqué parce que c'était très difficile de trouver une image qui représente un album qui parle d'une vie entière d'un point de vue subjectif. Donc, on avait beaucoup discuté avec mon éditrice qui était assez investie dans la maquette du livre. Donc voilà, on a vraiment beaucoup discuté et au début, c'était un petit peu parti sur quelque chose avec des cases justement pour avoir plusieurs scènes. Mais ça perdait un petit peu en force. Et puis finalement, voilà, je ne sais plus comment ça s'est passé exactement, mais on est tombé d'accord sur cette image-là, qui en fait est un symbole fort de l'album. Et puis moi, ce que j'aimais bien, c'est que on ne voyait pas le personnage principal, qu'on ne voit quasiment jamais dans l'album.
Ah, ça, c'était indispensable.
Oui, pour moi, c'était vraiment important. Et puis, il y avait aussi l'idée de la vie et la mort, parce qu'il y a la vie par le côté organique de la terre, les plantes, tout ça. Et la mort du corbeau. Et puis je trouvais que c'était assez impactant. C'est une couverture qui est un peu potentiellement intriguée, je pense. Donc voilà. J'avais envie aussi d'intriguer un peu.
Oui, et ben c'est réussi. Et le dénouement, lui aussi, est extrêmement troublant. Merci beaucoup, Théo Grosjean, d'être venu nous voir dans VMDN. Merci le spectateur beaucoup. Dans la collection Noctambule des éditions Soleil. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical about kill me. Till you tell me on the heavenly phone to hold tight. Come on. I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy
I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power. And you're really someone I wanna know. Up shaking just to let you know that.
Single du groupe britannique Coldplay qui sort aujourd'hui dans VMDN sur RFI et ça va sans doute marcher très fort.
Un café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Sophie Torlotin, Amélie Beaucourt, Isor Yas, c'est notre correspondante à Vienne. Donc Isor, bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Et bonjour Jean-François.
On va se faire un grec dans ce café gourmand. Vous avez rencontré Sophie, le plus célèbre des franco-grecs.
Et oui, Nikos Aliagas, hein, c'est la voix et le visage de The Voice, mais il est également photographe et il expose jusqu'à lundi ses portraits de parisiennes sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris.
Avec vous Alain, un groupe qui vient déjà pour la deuxième fois dans l'émission, le Québécois Paupières.
Trio à l'époque, devenu aujourd'hui duo, qui publie son second album Sad Sati, tout un programme.
Amélie, vous qui avez une âme sensible, vous connaissez certainement la scène de film de Walt Disney qui a fait le plus pleurer d'enfants.
Bah quand la mère de Bambi meurt, non ?
Bah voilà, exactement. Un vrai tire-larme. Elle a permis de vendre des paquets et des paquets de mouchoirs. Et bien figurez-vous que les musées viennent de rouvrir à Vienne et qu'une exposition rend hommage non pas à la mère, mais au père, au créateur de Bambi. Comment s'appelle-t-il, Isor ?
Félix Zalten, un artiste autrichien un petit peu tombé dans l'oubli. Zalten s'est intéressé à tous les arts, a fréquenté les plus grands et écrit un chef-d'œuvre, Bambi donc, un roman bien plus profond qu'il n'y paraît. Une exposition est consacrée à cet artiste en ce moment à Vienne.
Mais pour commencer, une balade entre rites, rivières, montagnes et châteaux. C'est le titre de ce recueil de dessins paru chez Actes Sud BD. Et pour vous guider dans ces paysages, Amélie, vous êtes allée à la rencontre de son auteur, Lorenzo Mattotti.
Oui, il m'a ouvert les portes de son atelier à Paris, où il faisait gris et où la pluie qui tombait ce jour-là n'avait clairement rien à voir avec le soleil et les couleurs chatoyantes des dessins qui figurent dans ce nouvel album. C'est son tout dernier projet après le film d'animation qu'il a réalisé en 2019, qui s'appelait « La fameuse invasion des ours en Sicile ». Et c'est selon lui le livre qui lui ressemble le plus aujourd'hui.
J'ai passé une très longue période à faire les films d'animation et très peu de temps à dessiner pour moi-même. Et terminer les films, terminer la tournée et tout ça. Grâce au Covid aussi, je suis rentré dans mon atelier et j'ai commencé à retrouver un peu mes dessins, mes thèmes, ma poétique. En fait, je ne savais même plus ce qu'il y avait dans moi parce que les films m'avaient pris tellement que là, j'ai retrouvé, j'ai recommencé à explorer mon monde. J'ai profité de cette période pour utiliser toute ma liberté et j'ai repris aussi la peinture. Parce qu'après, ça commence les commandes, on rentre dans une prison, on rentre dans une cage où on s'est mis tout seul. De chaque jour, avoir la page blanche et improviser et se mettre, c'est très excitant.
Et le monde de Matotti, Amélie, de quoi est-il composé?
Eh bien, de paysages sublimes entre forêts, lacs et sommets enneigés, dans lesquels on aimerait bien se promener, nous aussi d'ailleurs. Alors je lui ai demandé où il fallait aller justement pour voir ces coins de paradis. Bon, évidemment, tout ça, ça sort de son imagination. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il puise directement dans ce qui existe autour de nous.
Évidemment, certaines couleurs, certaines choses, vous pouvez exactement les retrouver. Ça arrivait, des gens, ils voient des nuages et disent « Ah, regarde une nuage comme Matotti ». En fait, c'est Matotti qui a vu une nuage, que ça existe vraiment. La nature, c'est incroyable parce que tout c'est possible. Je me souviens d'un long voyage en Patagonie. Mais certainement, le ciel, il était tellement incroyable. Pan, c'était comme une main, il avait craché un truc de couleur sous le ciel. Ça n'existe pas. En fait, oui, ça existe. Ça existe avec notre capacité de réinterpréter les choses. Ça existe.
Et au fil de cette balade, Amélie, on croise aussi de mystérieux personnages.
Oui, des personnages qui reviennent assez souvent, puisque les dessins qui sont présentés ici dans cet album sont issus de séries et de variations autour d'un même thème. Il y a notamment une femme nue avec à ses pieds un homme. On les retrouve sur plusieurs planches, représentées dans des couleurs, des techniques et des mises en scène différentes. Au fil des pages, une sorte de chorégraphie semble s'articuler autour de ce couple, dont Lorenzo Matotti lui-même ne connaît pas l'histoire.
Dans mon travail, il y a toujours soit des chambres, des pièces, un couple qui fait l'amour ou se regarde. Il y a toutes des séries avant. Et là, je les appelais des rituels intimes. C'est dans l'ombre, on ne voit pas bien ce qu'ils font. Mais à peu, c'est, les dessins se transforment. Les secrets des relations entre un homme et femme, on ne peut pas les dévoiler. C'est des mystères, ça aussi. Je me perçois que c'est... Un sujet principal, c'est l'homme et la femme. C'est très banal à dire, mais c'est peut-être la chose la plus importante. Mais après, je ne les développe pas dans les détails. Et peut-être ça ne m'intéresse pas vraiment les détails, parce que comme ça, je les enferme dans une chose trop précise et ça ne me permet pas, au lecteur, au qui regarde, d'évoquer ses propres expériences, ses propres projections sur les dessins. Il faut trouver les justes limites entre évocation et description.
Et ces séries, Amélie, elles ont été savamment agencées dans le livre pour créer une forme de narration.
Tout à fait, et ces étapes de voyage en quelque sorte sont séparées chaque fois par un château comme une porte d'entrée vers un nouveau royaume. Ce sont d'incroyables forteresses avec des architectures parfois réalistes, parfois totalement improbables. Et malgré le décor de rêve dans lesquels elles sont installées, elles ont quelque chose curieusement de très inhospitalier, ce que m'a confirmé Lorenzo Matotti quand je lui ai demandé dans laquelle il aimerait séjourner.
Ah non, il n'y a aucun... Ils sont trop liés à l'inconscient. On ne peut pas vivre dedans. On vit à l'intérieur, mais j'ai très peur des fantômes. J'irai jamais dormir dans un château tout seul. Chaque bruit, chaque chose peut me faire imaginer des choses.
Justement, ça, c'est un des conseils qu'il donne. Laissez libre cours à votre imagination, improvisée quand vous avez un crayon ou un pinceau entre les doigts.
Parfois, je me réveille, je viens ici, je ne sais pas quoi faire. Je commence à jeter avec les pinceaux et ça sort un visage. Le visage m'a fait venir envie de faire une structure. Et les dessins, c'est vraiment le dialogue avec mon imaginaire et qu'est-ce qu'il y a dans les papiers. Alors, c'est une sorte d'exercice d'improvisation. C'est plus riche, c'est plus vivant, c'est plus... Ça touche beaucoup plus des cordes antérieures. Peut-être le dessin se fait pour ça.
Un exercice qu'il recommande si on veut explorer les mystères de son propre esprit. En tout cas, pour les mystères qui se cachent dans la tête de Lorenzo Matotti, tout est à retrouver dans cet album.
Rites, rivières, montagnes et châteaux chez Actes Sud BD. Merci Amélie. Vous êtes bien sur RFI, il n'y a pas sur TF1, mais on va parler avec vous, Sophie. C'est un peu The Voice, bah ici, voilà. À RFI, Sophie Tourlotin, d'un des animateurs stars de la première chaîne privée française, l'animateur donc de l'émission de télécrochet The Voice, qui cultive depuis plusieurs années un autre talent, la photographie.
Et oui, hein, et c'est la cinquième exposition parisienne de Nikos Aliagas, après le toit de la Grande Arche de la Défense, les grilles du Palais Brongniart, la conciergerie et la librairie du Louvre. Cette fois, il expose 35 portraits de femmes, des parisiennes, qu'il célèbre sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris. Une exposition donc parfaite, hein, dans le respect des normes sanitaires, puisque en plein air et gratuite qui plus est.
Alors, quel type de parisienne peut-on voir ?
Eh bien, des jeunes et des moins jeunes, des inconnus que le photographe capte dans la beauté d'un instant. Ce sont, par exemple, ces deux jeunes filles saisies en plein saut devant la statue de Jeanne d'Arc, près du Louvre, ou l'académicienne Barbara Cassin, portraiturée dans la cour de l'Institut de France. Nikos Aliagas, eh bien, il a un emploi du temps très chargé. Aussi a-t-il toujours un appareil photo à portée de main. Alors, juste une précision avant de diffuser le son. Hein, il y a un curieux parasite audio qui s'est invité pendant l'interview.
Vilain.
Donc, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, votre transistor va bien.
Tout le temps, je l'ai tout le temps sur moi. Même avec l'iPhone, parfois, je fais des photos. Mais ce n'est pas pour la même utilité. C'est de la projection permanente. De raconter la vie des gens à travers ce que je ressens. Pas à travers nécessairement ce que je revois. D'ailleurs, pour moi, une photo, c'est pas... Elle est là, elle est géniale, je vois le cadre. Non, je vois la possibilité de raconter une histoire dans quelque chose qui semble être un cadre.
Alors, Nikos Aliagas a donc toujours, vous le disiez, son appareil photo prêt à déclencher. Mais Sophie, est-ce que ces portraits de parisiennes ont tous été pris sur le vif à l'insu des sujets ?
Alors non, hein, l'animateur et journaliste ne volent pas ces clichés, mais il respecte une certaine méthodologie.
Alors il y a deux possibilités, celle où j'arrive, où j'appuie sur le bouton et je fais ma photo et je vais les voir après. Et dans ces cas-là, on rigole, pourquoi on m'a photographié, puis je leur explique, etc. Et puis il y a celle, effectivement, que j'aborde pour parler, dire je vais vous prendre quelques images si vous êtes d'accord. Voilà.
Et sur certains portraits, on peut ainsi voir le sujet fixer l'objectif. C'est le cas de cette bouquiniste assise sur un pliant à côté de ses casiers sur les quais de Seine.
Elle me dit, je suis pas bien, je suis pas maquillée, mais on s'en fout. Je dis, l'idée, c'est que vous soyez vous-même dans la vie. C'est pas la première fois que je vous observe, parce que je passe toujours en voiture devant vos boîtes, comme vous les appelez, et je voudrais raconter une petite histoire. Alors au début, c'était non, 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 puis à la fin, ah bah oui, ah oui. Puis quand je lui montre la photo, elle me dit, elle est bien, mais je m'aime pas. Ben, je dis, ben, l'idée, et heureusement que vous ne vous aimez pas, parce que ceux qui s'aiment, en général, ils aiment une projection d'eux-mêmes qui nous renvoie plus aux réseaux sociaux, qui est une réalité sans filtre et une réalité brute. Moi, ce que je voulais, c'était exprimer ce que je ressentais en vous regardant quotidiennement quand je passais dans ma voiture, dans le froid. Voilà. Les gens ne le regardent plus, ces femmes de mon exposition, parce qu'elles ne posent pas, elles ne cherchent pas la lumière.
Nikos qui célèbre une certaine forme de normalité. C'est intéressant, Sophie, quand on sait qu'il fréquente des stars ou des aspirants vedettes avec ses multiples émissions comme The Voice ou 50 Minutes Inside.
Oui, et l'animateur d'ailleurs de 52 ans est lui-même connu. Alors, pour la petite histoire d'ailleurs, il a commencé sa carrière ici, à RFI, au bas de l'échelle. Hein, il découpait les dépêches la nuit pour payer ses études de lettres à la Sorbonne. Et je lui ai demandé si sa célébrité facilitait son travail de photographe.
Elles ne me reconnaissent pas systématiquement parce qu'avec le masque et une casquette, ça fait la blague. Et puis après, certaines dames me reconnaissent, puis ça ne change rien. Puis d'autres commencent à rire, sourire, ou à me parler de l'émission de la veille, etc. Donc là rentre une sorte d'incrédulité, une sorte de petit malentendu drôle. Mais on oublie vite. Parce que je ne me comporte pas comme dans son salon quand elle regarde la télévision. Je suis pas là pour les mêmes raisons. Ça les étonne. Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est prendre tout de suite le premier jet, on va dire, le premier regard, celui qui est fragile, étonné, déstabilisé aussi parfois.
Donc, si vous voyez un individu masqué et portant casquette vous prendre en photo, ben, ce pourrait bien être Nikos.
Oui, en tout cas, Nikos s'intéresse aux autres. Hein, et il y a un aspect esthétique dans ces clichés, comme celui où l'on aperçoit la tour Eiffel encadrée par deux jambes de femme en escarpin. Puis, il y a aussi d'autres aspects auxquels Nikos voulait rendre hommage, comme avec ce cliché d'infirmière pendant leur pause.
On passait du rire... Oh ouais, tu vas faire The Voice ou tu vas faire la télé, ouais, 50 minutes inside. Elle me vannait un peu, elle me chahutait un petit peu, gentiment. Et puis à un moment, je parlais pas, je les observais, puis ça les a mis un peu mal à l'aise. Et là, j'ai vu un moment de vérité, et là, je suis entré en tant que photographe. Tac, tac, j'ai pris mes deux images, où je les ai vues fatiguées, en train de se frotter le front, où elles avaient peut-être enchaîné des vacations depuis deux jours, et qu'elles avaient fermé les yeux de quelqu'un. Elles avaient peut-être sauvé quelqu'un. J'ai été moi-même hospitalisé souvent dans ma vie, depuis mon enfance. Donc c'est pour ça que je voulais leur rendre hommage.
Ouais, Nico Saliagas, à votre micro. Sophie, petite question, il vous a shooté, il vous a pris en photo vous-même? Non, pas encore.
Je ne serai pas sur les clichés de la prochaine
expo.
C'est
bien dommage. C'est bien dommage. On rappelle en tout cas le titre de cette exposition en plein air, donc libre et gratuite, hein, parisienne, sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'à ce lundi. Direction comme promis Vienne en Autriche à la découverte de Félix Zalten, un nom qui vous est sans doute inconnu, sauf si je vous dis qu'il s'agit donc de l'auteur de Bambi. Vous êtes à Vienne pour RFI Isor. Une exposition se tient en ce moment dans la capitale autrichienne et permet de redécouvrir l'œuvre de cet artiste injustement oublié.
Oui, l'exposition se compose de deux parties, une première au musée de Vienne, Musa, et une deuxième à la bibliothèque de la ville située à quelques mètres au Rathaus. En plus des peintures, affiches et sculptures, l'exposition regorge de documents et objets personnels de Zalten qui aident le visiteur à redécouvrir cet artiste en effet tombé dans l'oubli. Né en 1869, Zalten grandit à Vienne où il arrête l'école prématurément et commence à écrire ses premiers textes littéraires à même pas 20 ans. Il devient en parallèle journaliste et c'est ainsi qu'il acquiert progressivement une certaine renommée.
Et s'intéresser à Félix Zalten, Isor, c'est s'intéresser aussi à la Vienne du début du XXe siècle.
Oui, il est impressionnant de constater que chaque artiste que nous connaissons de cette époque était lié d'une manière ou d'une autre à Félix Zalten. Il fréquente de nombreux écrivains comme Stefan Zweig, Arthur Schnitzler ou Karl Kraus, mais aussi Klimt, Freud et bien d'autres. La capitale autrichienne est alors à l'avant-garde de la scène artistique et Zalten va s'illustrer dans de nombreux domaines. La littérature et le théâtre évidemment, mais aussi le cinéma et la musique. Zalten a également été un critique influent s'intéressant aux beaux-arts et en particulier à la sécession viennoise. On découvre dans l'exposition son soutien précoce à ce mouvement, pas réellement compris au départ, comme l'explique Ursula Storr, la commissaire de l'exposition.
Klimt avait été chargé de représenter la jurisprudence, la médecine et la philosophie sur le plafond de l'université. Il les peigna comme personne n'aurait jamais pensé à les peindre, ce qui fit scandale. Les gens décidèrent que ces représentations ne correspondait pas à leur vision. Les toiles ne furent donc pas affichées et Klimt dut rendre l'argent qu'il avait touché. La devise de la sécession viennoise était « à chaque âge son art, à chaque art sa liberté », ce qui signifie que l'artiste a le droit de peindre comme il l'entend. Et Zalten s'est engagé pour ses artistes et pour cette liberté dans l'art. Il a vraiment compris ce que les artistes de l'époque voulaient être et voulaient dire.
Certains chefs-d'œuvre comme le Palace Athéna de Klimt sont d'ailleurs exposés, accompagnés de la critique rédigée par Zalten à l'époque.
Mais plus tard, avec la montée du nazisme, tout va changer pour lui.
Oui, Zalten a grandi dans une famille juive libérale. Il a toujours eu un respect et une admiration profonde pour le judaïsme qu'il a défendu toute sa vie. Mais comme tant d'autres, il va effectivement subir la haine nazie. Il est interdit de publication dès 1935 et après l'Anschluss en mars 1938, il sait qu'il doit quitter Vienne. Il prépare son exil pendant plusieurs mois et partira en mars 39 pour la Suisse. L'agenda qu'il avait durant cette période est exposé. Un témoignage précis et émouvant.
If you look through this calendar, you can see how afraid.
En feuilletant cet agenda, on réalise à quel point il avait peur et à quel point il a dû faire face à la bureaucratie. Il devait se rendre dans beaucoup d'endroits sans savoir ce qu'il devait y faire, sans savoir s'il pourrait en ressortir. Dans cet agenda, il écrit à l'os. Il raconte un an d'horreur avec des phrases très courtes. Ici, par exemple, il écrit : aujourd'hui, j'ai vendu ma machine à écrire. Je trouve cela très impressionnant.
Et la deuxième partie de l'exposition, Isor s'intéresse à son œuvre littéraire et bien sûr à Bambi.
Zalten a écrit des ouvrages très divers avant Bambi. Un roman paru en 1906 est particulièrement intriguant. Il s'intitule « Histoire d'une fille de Vienne racontée par elle-même », sorte de mémoire d'une prostituée. S'il est paru de manière anonyme, ce roman, devenu un classique de la littérature érotique, est souvent attribué à Zalten, aujourd'hui encore. Mais c'est bien avec Bambi, publié en 1923, que Zalten va en effet connaître un succès fulgurant. Cette œuvre est connue dans le monde entier entier car elle a été adaptée en dessin animé par Walt Disney en 1942. Mais ce faisant, le roman de Zalten a été dénaturé, explique Suzanne Blumesberger, spécialiste de l'auteur.
Le film et le livre n'ont pas grand-chose de commun. Tout ce qui est en toile de fond dans le roman n'est pas dans le long métrage. Et j'ai du mal à imaginer que Zalten ait pu en être satisfait. Le livre est difficile à résumer car il décrit une menace dans les bois qui devient de plus en plus perceptible. La peur, le désespoir et l'abandon sont très présents. Tout est plus noir dans le livre car, selon moi, il met en scène l'idée de domination, un écho à l'émergence du nazisme qu'on pouvait déjà sentir dans les années 20 et qui préoccupait les juifs.
Les Zalten n'a pas vraiment profité, hein, Isor, du succès mondial de Bambi.
Non, pas financièrement en tout cas, car il avait vendu les droits à un tiers dans les années 30 et n'a donc pas bénéficié de la manne financière qu'est devenue Bambi. Lors de son exil en Suisse et jusqu'à sa mort en 1945, Zalten écrira d'autres histoires d'animaux, dont une suite de Bambi. Ce ne furent pas ses meilleurs romans, mais cela lui permit de gagner sa vie. Aujourd'hui, plus de 75 ans après sa mort, le nom de Zalten et son œuvre restent méconnus, même en Autriche, et il est grand temps de remédier à cela, selon Suzanne Blumesberger.
Félix Zalten est un personnage d'une richesse incroyable, dont l'œuvre est extrêmement dense et variée, et il a si bien capturé l'esprit de l'époque. Quand on ne connaît pas Vienne, il faut lire Zalten, car c'est un voyage dans le passé, dans l'ancienne Vienne.
Autre conseil, venir découvrir cette belle exposition, visible jusqu'au 19 septembre à Vienne.
Merci beaucoup, Isor, à bientôt. Objet volant paupière qui vous a tapé dans l'œil, Alain, un duo que vous nous aviez déjà présenté et qui est formé aujourd'hui par Julia et Pierre-Luc.
Julia Daigle n'a jamais réellement joué d'instrument, si on ne compte pas sa voix, mais elle est la mélomane du groupe. Quant à Pierre-Luc Béguin, devenu musicien plutôt sur le tard, il a commencé la batterie vers l'âge de 18 ans et a ensuite joué dans des groupes de rock pour se faire la main. Il s'est après tranquillement mis au synthétiseur. Paupière, un objet non pas volant mais chantant, identifié, bien que très particulier, qui sévit depuis 2014. Nous avions croisé ces artistes pour leur mini-album Getatura, pour lequel ils avaient composé les chansons avant de trouver le titre. Qu'en a-t-il était pour cette Satie?
Il était choisi, mais en fait, on l'a changé. Ça devait s'appeler Le Retour de Saturne. C'est dans l'astrologie. En fait, c'est un peu comme la crise de la trentaine. Puis c'est un phénomène qui arriverait aux 30 ans. On a réalisé que l'âge du groupe, c'était 7 ans et demi. Ça fait partie du texte de la chanson Satie. Puis on a trouvé ça intéressant de faire un parallèle avec... c'est un peu comme si on bouclait quelque chose, puis de revenir à la base, parce qu'on a commencé en duo, puis là, on est redevenu un duo. C'est comme si un peu les 7 ans et demi des débuts. On a un peu l'impression que cet album-là est un peu plus mature.
Bon, de 30 ans aussi, les deux, on est, Julia, elle arrive dans la trentaine. Moi, je la quitte dans pas long. Mais je me sens encore bien les deux pieds dedans. Donc,
c'est un peu comme un album qui souligne beaucoup de choses, puis qui a des morceaux qu'on travaille depuis plusieurs années, alors qu'il y a des morceaux qui ont été composés printemps dernier. Il y a même une chanson surprise qui est tout, qui a été vraiment comme un choix de dernière minute.
Mais je crois vraiment que c'est un album qui rappe un peu, là, qui résume un peu la façon de composer, les types de mélodies, la rythmique. Donc oui, une certaine maturité dans cet album-là, mais avec quand même beaucoup d'irrévérence et de jeunesse et d'énergie.
Sati sur RFI dans VMDN, le duo Paupière. Et d'où vient-il précisément, Alain?
Ah, ils habitent Montréal, Jean-François, mais ils sont originaires tous les deux d'une région différente du Québec. Mais c'est à Montréal qu'ils se sont rencontrés. Qu'aiment ces deux enfants terribles que sont Julia et Pierre-Luc dans le flou que l'on peut entendre chez eux?
C'est pour laisser place à l'imagination. Je trouve ça très beau qu'il y ait des moments qui sont descriptifs, juste pour créer une ambiance, mais ensuite, d'avoir un peu d'abstrait, je trouve que ça fait du bien. Souvent, on nous demande après un concert, les gens vont nous dire comme, qu'est-ce que vous dites? C'est, moi, j'ai pensé à mon ex, j'ai pensé à mon père, j'ai pensé à, ça m'a fait penser à ma rupture, il y a toutes sortes de choses. Puis ça, je trouve ça vraiment important de laisser. C'est comme si on ouvre la game, puis après, les gens jouent avec nous.
Autant c'est trop facile d'être uniquement dans le flou puis dans le poétique. Puis je trouve ça, c'est un manque de prise de risque. Autant les textes un peu trop près de sa vie, de ses émotions, et une description un peu mot par mot de ce que l'on vit. Comme il y a beaucoup au Québec, là, dans la chanson populaire, là, des chansonnières qui nous racontent leurs aléas
c'est
de la journée.
À la minute, là, comme je me suis levée, j'ai fait un café, j'ai regardé par la fenêtre.
Un beau mélange des deux, ça devient intéressant de quand même situer l'action tant soit peu, mais après ça, d'ouvrir une porte que tu t'attendais pas, puis là, wow, je perds un peu mes repères, puis là c'est au public de faire la part des choses, si bon il me semble.
C'était bien cette chanson, pourtant, je me suis levé, j'ai fait un café.
On peut insulter les goûts de personne, là. Beaucoup passe en France, pas au Québec, personne ne se reconnaît.
J'ai parlé à Alain.
Alain m'a dit...
Paupières, cœur, monarque. Alors, vous n'aurez plus le titre de l'album ?
Sad Sati. Sad Sati, c'est le karma, la somme des actes de cette vie présente, mais aussi de celles antérieures, des marques sur le fil du temps qui mènent vers la véritable destinée. Alors, de ces trois citations que je leur ai proposées du marquis de Sade, lesquelles pourraient-ils faire leur ou pas ? Tout est bon quand il est excessif, ou voir c'est croire, mais sentir c'est être sûr, ou bien tout le bonheur des hommes est dans l'imagination.
La deuxième et la troisième pour moi.
Et pour vous, Pierre-Luc?
En tout cas, pas tout le bonheur de l'homme est dans l'imagination, ça j'y crois pas. Donc les deux autres, on va dire.
Tout est bon quand il est excessif, et voir c'est croire, mais sentir c'est être sûr.
Je vais y aller avec la deuxième.
Merci infiniment, Julia et Pierre-Luc de Paupières. Merci beaucoup.
Merci Alain, vous étiez toujours aussi bon.
Oui, c'était vraiment un plaisir.
Sad Sati, intitulé de ce second album qui sort ce 7 mai. Paupières qui sera en spectacle au Ministère à Montréal le 21 mai. Merci Alain, merci également à Isor, Sophie et Amélie. Dans un instant, le journal. Bon week-end à tous et à lundi avec Nawel Benkrayem pour son livre « J'habite un secret » aux éditions Bruno Doucet. Et vous m'en direz des nouvelles.
RFI.